présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. La société est une société de rois et de nobles, possédant beaucoup de terres et de troupeaux, et vivant une vie de magnificence et de combat. Le roi était juge, légalisateur et chef. Il n'était soumis à aucun contrôle officiel, mais dépendait de des sanctions et des promesses, de ses promesses, de sa richesse et de ses relations. Un roi faible ne pouvait survivre aux rivaux puissants ou aux ennemis extérieurs. La capitale de Troie est très riche, la capitale, plutôt la ville de Troie est très riche. Matières précieuses pour faire des bijoux et des armes, bois, beaucoup de bois sur les pentes de l'Ida, matières indispensables pour une flotte, chevaux rapides très réputés, population abondante. Ils ont beaucoup de trésors dans leur temple. Ils ont aussi beaucoup de marchands. La ville de Troie se trouve sur les routes du thon, qui est très importante pour l'économie, pour la pêche.
Nous les avons tués jusqu'au dernier.
Stratégique. pour les routes maritimes, dans le détroit de Dardanelle, dont elle a le contrôle du péage. En dépit des distances, grecs venus de l'Occident et troyens qui représentent l'Orient, ils ont les mêmes modes de vie, coutumes, religions et langues. Les Troyens s'appuient sur l'Empire Hittite. La ruine de l'Empire Hittite au XVIIIe siècle pourrait expliquer la perte de Troie. La victoire des Achéens laisse un souvenir durable sur la ville de Troie, parce que c'est une des dernières victoires qu'ils ont eues. Un demi-siècle plus tard, après la guerre de Troie, l'envahisseur dorien, descendu du Danube, ruine définitivement la Grèce arvéenne. Les Indo-Européens, dont les Achéens, qui ont quitté les terres froides pour se nourrir et trouver un climat plus clément, sont des peuples plus intelligents que ceux qu'ils rencontrent à cause de leurs coutumes, religions. Ils ont les chevaux, des chars, du métal. Ils ont réussi à fonder un empire grâce aux chevaux que l'on ne connaissait pas ailleurs. Et puis en apport de ces grands hommes blonds, chevelus. Ils ne sont pas comme les autres. Ils viennent du pays des dieux. Fin des préliminaires. Vallée Douce, dans l'île de Mycène, qui appartient au roi Agamemnon, qui est le fils d'Anthrée, marié à Clytémnestre, sœur d'Hélène. Il a trois filles, dont une est Iphigénie et un fils. Agamemnon est frère aîné de Ménélas, marié à Hélène. L'île n'est pas très grande, rocailleuse, peu de terre cultivable, quelques massures en terre pour les paysans. Un chemin qui mène à ce qu'on appelle le palais, qui est une ferme plus importante que les autres, avec beaucoup de dépendances pour les ateliers, les artisans. La propriété est entourée d'un muret et un grand portail de bois. Devant la ferme, il y a une grande cour avec un puits. Le bâtiment central est une maison importante d'un étage en pierre et terre. Il y a des escaliers pour accéder à la porte d'entrée. Une grande porte de bois. D'autres bâtiments sont sur les côtés de la maison. Écurie, étable, atelier de maréchal ferrant, potier, armurier, etc. Ceci donne un ensemble peu esthétique. Mais on n'a pas recherché cela. On veut que le côté pratique. Les Achéens viennent de s'installer dans la région. Leur but premier, c'est de s'y implanter. Lorsque l'on rentre dans la maison, il y a une grande pièce, presque vide, murs nus, peau de bête sur le sol, des tables basses. Des torches contre le mur éclairent la pièce. Il y a aussi deux petites fenêtres sans vitres, ou plutôt des trous dans le mur. C'est pour ça que l'on entend le bruit de la nuit et la mer à l'intérieur de la maison. Ce soir, Agamemnon reçoit ses amis, des rois achéens. Ils sont assis en tailleur, à terre, sur les peaux de bêtes, devant des tables basses en bois où se trouvent des victuailles dans des plats entières cuites et des coupes de vin. Agamemnon est au milieu d'eux. C'est un homme de 45 ans, grand, maigre, visage osseux, très autoritaire, barbe et cheveux blonds, yeux bleus. Il porte une robe de lin blanche. À sa droite se trouve le roi Pelée de Thessalie, un homme de 35 ans, au visage doux, yeux bleus, blonds. Il est le mari de la déesse Thétis, qui a un fils Achille. À sa gauche, à la gauche d'Agamemnon, il y a Ulysse, roi d'Ithaque, fils de Laétie, marié à Pénélope, a un fils Télémaque. C'est un homme fort, grand, blond et très chevelu. Ces trois rois aiment se réunir et parler de leur immigration, bataille, pillage, etc. Thessalie, le plus brave des trois, brave dans le sens de bon, parce que à leur époque, brave voulait dire vaillant, fort. La bonté n'avait pas de sens. Un homme était grand par sa force, pas de pitié non plus. Donc Thessalie, après avoir bu, leur dit « Je vous conquis une terre bénie des dieux, la douceur de l'air, la pureté de la lumière, c'est un lieu béni par Zeus. Nous avons chassé les peuples qui habitaient et fruits, leurs richesses, en plus de leurs terres. Et ceci, avec l'aide des dieux, il ne reste plus qu'à couler des jours heureux. Agamemnon lui dit, sans doute. Thessalie lui demande, tu n'es pas d'accord avec moi? Quelque chose te chiffonne? Agamemnon lui répond, oui, trois. Tu as raison, cette cité nous gêne. Il faut la détruire et s'emparer de ses richesses. Elle fait de l'ombre à nos cités. Et puis, elle a son port. Elle a le contrôle du détroit de Dardanelle avec son péage. Les navires ne peuvent pas circuler sans autorisation de la ville. Tu as raison. Il faut détruire cette cité, la démolir. Agamemnon lui dit, j'ai pensé, mais il faudrait une grande armée, puisque la cité fait partie de l'Empire Hittite, et qu'elle est très puissante. Grande population. Et puis, elle est dans un endroit difficile, entourée de murs, bien gardée, un port aussi. Ulysse lui dit, n'avons qu'à former une armée avec tous les royaumes archéens, nous unir tous ensemble. Agamemnon lui dit, et qui en serait le chef? Ulysse ne veut pas être le chef, parce que si la guerre est perdue, le chef sera responsable et on risque de le tuer et ses biens confisqués. Pourquoi pas toi? Tu es le plus vaillant et le mieux aimé. Agamemnon lui dit, merci. Mais oui, merci. Mais tu oublies une chose très ennuyeuse, c'est que nous n'avons pas d'armée. À part nous, qui sommes rois et chefs de guerre, notre peuple, des paysans, artisans, s'est bien battu durant l'immigration pour avoir des terres. Mais maintenant, il est revenu paysan, berger, artisan. Ulysse lui dit, eh bien, demande-leur de reprendre les armes. Agamemnon lui dit, ça, et sous quel prétexte? Celle de détruire une ville, parce qu'elle nuit à nos affaires. Pour les navires marchands, pour qu'ils puissent accoster ailleurs qu'à Troie, dans nos ports à nous, ils ne comprendraient pas et refuseraient de quitter leur terre. Pendant des années, ils se sont battus, mourant de faim, de froid. Maintenant, ils ont terre, bétail, atelier, fondé des familles dans un pays béni. Ils ne voudront jamais s'y reprendre les armes pour détruire une cité. Non. Lui soupire et lui dit, tu as sans doute raison. Cette ville continuera à nous narguer. Nous aurions dû s'y garder une armée. Agamemnon lui dit, c'était impossible. Nous n'avions pas assez de fortune. On avait besoin de nourriture, de maison. Nous manquions de tout. Lui soupire. Thessalie ne dit rien. Pour la guerre, il n'aime pas ça. C'est un homme simple. Qui a eu la chance, c'est d'être aimé par une déesse aussi douce que lui. Lys voit Thessalie et lui dit, mais toi, tu as des soldats, une armée, Thessalie. Thessalie, hein, dans la ville, non? Son fils est chef de guerre. Il y a des hommes à lui, en permanence. Et Salé lui dit, oui, mais Achille a quelques amis qui ont formé une armée de mercenaires. Et ça se bat comme des soldats de métier, pas comme des paysans. Ils s'entraînent tous les jours, ce sont des guerriers. Et très vaillants, les plus vaillants que nous ayons eus. Et ils se disent, oui, une armée invincible, puisque son chef est Achille. Et qu'Achille est invincible, son armée aussi est invincible. On pourrait essayer faire le siège de Troie. Accepterais-tu que ton fils se batte pour nous? Et Sali lui répond, tu sais, Achille appartient plus à sa mère qu'à moi. Il est fils d'une déesse. Elle dira, oui, les dieux sont avec nous. Thessalie lui dit, si nous battons, il ne faudra pas crier victoire de suite. Les Troyens ont les mêmes dieux que nous. Sûrement que l'Olympe sera divisé. Il lui dit, mais Zeus sera avec nous. Sera bien avec nous. Alors tu peux dire à ton fils de se préparer pour cette expédition. Avec une armée comme il a, il n'y en aura que pour quelques jours. Agamemnon est courroucé. Il vient à peine, c'est d'être nommé chef de coalition, et voilà qu'Ulysse donne des ordres. Il lui dit, Achille est un vaillant soldat, son armée aussi. Mais elle ne pourra jamais s'emparer de Troie. La cité est bien fortifiée. Il y a de nombreux hommes qui la protègent et des alliés, les Hittites, sans compter le port qui leur permettra de recevoir du ravitaillement. Non, il nous faut une grande armée, mobiliser des hommes. Malheureusement, sans un bon prétexte, on ne peut pas le faire. Un soldat qui se bat pour une noble cause se bat mieux. Il faut aussi que cette cause nous fasse oublier ce qu'il a laissé, sa famille. Il se dit, alors on ne fait rien, on attend. Il y soupire. Et Salé leur dit, au lieu de faire la guerre, pourquoi ne pas s'allier aux Troyens? Agamemnon lui dit, on n'a pas à s'allier à ceux qui nous font de l'ombre. Jours plus tard, à Sparte, royaume de Ménélas, frère cadet d'Agamemnon. Ménélas, après un long voyage en mer pour chercher des étoffes, revient à son palais, qui est une ferme dans le genre de celle de son frère, mais plus spacieuse, avec sur le devant une terrasse. Une terrasse qui a un plafond tenu par des colonnes. Ménélas s'approche du palais, accompagné d'un jeune homme. De la fenêtre de sa chambre, Hélène les voit arriver. Elle reconnaît son mari, qui est grand, mince, blond, habillé d'une tunique blanche. L'homme qui l'accompagne ne le connaît pas. Il est plus petit que son mari. Il doit avoir à peu près le même âge, dans les 27 ans. Cheveux châtains bouclés, porte une tunique jaune. Hélène décide de sortir de sa chambre pour les accueillir. Elle s'éloigne de la fenêtre. C'est une belle jeune femme dans les 25 ans, mince, cheveux longs qui ondulent blonde. Elle a les lèvres pulpeuses, le regard d'enfant espiègle et très sensuel. Vite, elle descend les escaliers. Et se trouve en bas. La porte est ouverte et apparaît deux hommes qui lui sourient. De cette pièce sombre, une Hélène habillée de blanc est éclairée par les rayons du soleil qui viennent de la porte ouverte. Elle a l'air d'une apparition. Les deux hommes sont éblouis par sa beauté. Après une seconde, ils sont restés figés, mais les lancent par l'épaule. La personne qui l'accompagne et l'amène à Hélène. Un domestique ferme la porte qu'il avait ouverte. Lady, je te présente Hélène, ma femme. Hélène ne dit rien. Elle est hypnotisée par ce jeune homme qui semble si peu à ceux qu'elle a connus. Hélène, je te présente mon compagnon de voyage, Priam Paris Alexandre, fils du roi de la ville de Troie. Hélène lui sourit. Paris lui dit, je suis enchanté de faire la connaissance d'une aussi jolie personne. Elle sourit. Mais là aujourd'hui, je suis fatigué. Je crois que mon compagnon aussi. Il faut lui donner une chambre et un bon bain. Après, il viendra nous rejoindre pour le repas. Hélène lui dit, oui, bien sûr, je vais prévenir mes gens. Et elle quitte la pièce. Ménélas dit à Paris, Hélène est restée encore un peu enfant et ne sait pas très bien tenir une maison. Je crois qu'elle s'ennuie un peu ici. Elle aimerait mieux, c'est une vie plus bruyante. Hélène revient, est accompagnée d'une jeune esclave, une enfant de 12 ans, petite, maigre et blonde. Elle dit à Paris, veuillez me suivre. Et Paris suit les deux femmes. Il monte à l'étage. Pour arriver au premier, elle est une porte. C'est une pièce nue avec peau de bête à terre, un lit de camp, une table basse. Cela vous plaît-il? Très bien, je vous remercie. Voici le lieu pour prendre le bain. Merci. Bon, je vais vous laisser. À tout à l'heure, madame. Elle le laisse. Paris a pris son bain. On lui a donné une tunique propre, blanche. Pendant ce temps, Ménélas est avec Hélène dans leur chambre. Une autre pièce pour prendre un bain lui aussi. Ils se déshabillent pour entrer dans l'eau chaude et parfumée. Pendant qu'il se déshabille, il dit à sa femme, j'ai rencontré Paris en pleine mer, son bateau a chaviré. La mer avait été très agitée. C'est ça qui l'a fait chavirer. Je l'ai récupéré. J'ai mis dans mon embarcation, nous avons continué le voyage. Nous sommes devenus amis en combattant ensemble pour piller quelques villes. Et il est devenu mon ami. Il est nu et s'apprête à entrer dans son bain. Une fois qu'il est rentré dans son bain, elle lui demande, je t'ai pas manqué alors? Et lui sourit, la prend dans ses bras. Bien sûr que tu m'as manqué, ma jolie déesse. L'embrasse sur les lèvres. Et moi, je t'ai manqué, elle lui dit. Oui? Qu'as-tu fait durant mon absence? Elle lui dit. Rien. Soupir. Tu sais, je crois. C'est que j'aurais aimé être près de toi et vivre des aventures palpitantes comme toi. Et lui dit, mais tu es folle, tu es une femme. Et soupire, et lui dit, oh, que j'aimerais être un homme. La vie d'une femme est tellement monotone. Il sourit, lui dit, ce sera un crime que tu deviennes un homme. L'eau chaude lui fait du bien. Lave-moi. Elle prend l'éponge qui est sur le rebord. La mouille et lui lave le dos. Puis la poitrine descend. Il ferme les yeux, se détend. Il lui dit, elle descend la main sous l'eau. Elle suit jusqu'en haut des cuisses. Le membre est déjà raide. Elle, ça ne lui fait rien. Elle ne ressent rien. Son mari, elle le connaît. Les deux hommes ont parlé de leur voyage, surtout Ménélas. Ils sont assis en tailleur devant des tables de bois. Les deux hommes sont en face d'Hélène. Paris, ébloui par Hélène, ne dit rien et semble être émerveillé, ne cesse de la regarder. Elle aussi le regarde, le trouve plus séduisant que son Ménélas, et s'ennuie tellement avec lui aussi. Ménélas est tellement heureux d'être de retour, d'avoir de bonnes histoires à dire, de revoir sa femme qui boit et mange énormément. Une fois qu'il est fini de manger, Ménélas, un peu ivre, fatigué, se lève et leur dit « Je vais m'allonger un moment. Hélène, tu lui tiendras compagnie. » Et il les laisse. Un esclave, un petit homme chaud, cheveux, dessert la table. Paris et Hélène se regardent. Ils sont pris de désir l'un pour l'autre. Paris est ébloui par cette belle jeune femme blonde et mince qui le regarde avec de grands yeux bleus comme une enfant. Et elle est éblouie par cet homme qui semble plus homme que son mari. Elle est attirée par ses muscles, son visage viril. Une fois que l'esclave est fini de desservir, il se retire. La salle est vide. Ils sont seuls. Il se lève et lui dit « Je vais me retirer dans ma chambre. » Elle se lève et lui dit « Vous voulez pas que je vous montre notre terrasse ?»« Oui, » elle lui dit avec un sourire. « Eh bien, suivez-moi. » Elle l'a menée à la terrasse. Elle fait tout le tour de la maison. Le sol est carrelé. Et elle a des vases de fleurs multicolores. La vue est très belle. Elle donne jusqu'à la mer. Il lui dit, c'est très beau. Elle lui fait, oui. En faisant l'amour, que vous devez être heureuse ici. Elle lui fait, heureuse? Je m'ennuie à mourir. Je passe la plupart du temps seule. Mon mari toujours en voyage. Je n'ai personne à qui parler. Vous n'êtes pas heureuse? Pourtant votre mari, elle lui dit, mon mari, même peut-être. Oui, bien sûr, qui m'aime. C'est mon mari. Enfin, mon mari, à cause d'un pari stupide, où il devait prendre la fille la plus belle de la soirée. Malgré moi, j'ai gagné le prix. Et on m'a marié sans que l'on me demande mon avis. Bien sûr, après, je suis mise à l'aimer. C'est un homme charmant, gentil. Mais qu'est-ce que l'on peut s'ennuyer avec lui? Qu'est-ce que l'on peut s'ennuyer? Soupire. Et lui dit: ne parlons plus de tout ça. Parlez-moi de la vie à trois. Et il se remet à marcher. Il lui parle de sa vie, de cette ville qui paraît à Hélène fabuleuse et pleine de vie. Elle se voit déjà dans cette cité, entourée de gens, de richesses, au milieu de fêtes fastueuses. Chez Ménélas, il ne se passe jamais rien. Ce sont des paysans, ces gens-là. Elle se dit: si j'étais mariée à Paris, quelle vie je mènerais? Paris est ébloui par cette belle jeune femme. Plus d'une fois, il a envie de l'embrasser. Il passe un long moment à se regarder, sans se parler, en marchant autour de la maison. Mais Lélos vient les rejoindre. J'arrive pas à dormir. Alors je viens. Ce qui les fait revenir à la réalité. Mais Lélos est heureux. Il a retrouvé sa femme et un nouvel ami. Sa joie ne lui fait pas voir le trouble qu'ils ont l'un pour l'autre. Tout en se promenant avec eux, il parle à Paris, surtout de ses espoirs qu'il a fait avec son frère, du grand voyage qu'ils ont fait pour venir jusqu'ici, plein d'aventures, de sang. Et de trésors qu'ils ont pris. La colonisation des terrains, les massacres, les autochtones, les barbares du pays. Maintenant nous sommes chez nous, tués. Toutes les barbares, les terres nous appartiennent, à nous, les Achéens. Paris lui dit: tu oublies l'Empire hittite et ma cité. Mais là, lui dit: ce n'est rien. Un jour, nous détruirons cet empire. Paris furieux se fait face à Ménélas. Je te laisserai pas détruire ma ville, celle de mon père. Tu n'es plus mon ami. Ménélas sourit et lui dit: j'ai pas dit que je détruirais ta ville, t'es mon ami, ni l'empire hittite. Allez, pardonne-moi de t'avoir froissé. Paris lui dit: bon. Léa se prend dans ses bras. Hélène est face à Paris. Elle voit qu'il a les traits crispés. Elle sourit. Veut punir Ménélas pour ce qu'il vient de dire. Puis, il ne parle plus de ceci. Ménélas essaye de distraire son ami, fait visiter son domaine, qu'il appelle royaume, à cheval. que les deux hommes sont sur la terrasse. Hélène est au palais. Elle donne des ordres pour le repas, tout en pensant à ce que lui a dit Paris sur sa vie, que l'on mène à Troie. Les fêtes riches, les boutiques, les bijoux, les femmes qui sont libres d'aller, venir comme elles veulent. Tous ces hommes qui ne sont pas des rustres, mais des soldats, des marchands, des nobles. L'on chante, l'on danse dans la ville. Le vin coule à profusion. Elle soupire et se dit que c'est une cité merveilleuse et digne d'une femme comme elle qui a gagné un concours de beauté. Soupire et se dit et dire que j'ai gagné un concours de beauté, je suis la femme la plus belle et délicate et obligée de vivre ici, dans ce pays perdu, au milieu des rochers, seul à attendre un mari qui revienne de ses expéditions. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Guerre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.